France Culture.
For me, disco is an expression of musical joy at its base.
Pour moi, la disco, c'est l'expression d'une joie extrême en musique.
Disco is an art form that is so criticized.
La disco, c'est un art souvent critiqué.
The prettiest girl in class,
un peu comme la plus jolie fille de la classe qui est critiquée par tous les autres parce qu'ils sont jaloux d'elle.
And I think that this is a music that brought joy.
Pour moi, c'est une musique qui a apporté la joie.
And some people didn't like that.
Et ça, ça n'a pas plu à tout le monde.
Music is the way to relieve the pressure. Music on the way. Do you get the message? We all feel the pain.
C'est l'histoire d'un genre qui fait mauvais genre, un genre féminin et masculin, un genre qui aurait pu rester en marge mais qui deviendra mainstream, un genre dominant. Le disco ou la disco est au cœur de nos playlists, dans nos fêtes ou au JO, parce que la disco rassemble. La disco soigne, la disco élève et la disco rapproche. C'est l'histoire d'une musique, ou plutôt d'une attitude, être au monde sur une piste de danse, se laisser emporter par le rythme pour devenir enfin soi-même. Quatre temps, une rythmique si simple qu'elle en devient presque irrésistible, jusqu'à devenir une musique de masse efficace pour les pistes de danse géantes qui explosent partout dans le monde. Le ou la disco est aujourd'hui à la fois hype et has-been, à la fois vénérable et populaire, à la fois mesure et démesure, et entre le sublime et parfois le laid, la disco débarque aujourd'hui au musée, le disco hante l'intronisation de Donald Trump au pouvoir, et la disco s'invite même dans LSD sur France Culture. Aujourd'hui, la fièvre disco rafraîchit ses mémoires. Discothérapie, une série documentaire d'Élodie Maillot, réalisée par Thomas Duterre. Premier épisode, le disco avant la fièvre.
I came of age as a young adult.
J'ai grandi quand le disco est né.
I didn't realize the birthplace of disco.
Même si j'en étais pas consciente.
Meryl Messler, photographe.
I moved to New York City. I was 23 years old in 1975.
Moi, je suis arrivée à New York quand j'avais 23 ans. C'était en 1975 et en pleine explosion de la scène disco.
Had fun with it.
Et j'en ai bien profité.
Photography is my passion, so I was taking pictures in my mind no matter what.
J'étais déjà passionnée par la photographie. Je prenais tout le temps des photos dans ma tête, même sans appareil.
We're looking at a photograph of
ça, par exemple,
my walk from the subway.
C'est une photo que j'ai prise sur mon trajet entre le métro et l'école. Je prenais des photos de ce que je voyais sur le chemin.
You can see there's lots of there's a snowstorm.
Là, tu vois qu'il y avait une tempête de neige ce jour-là.
And you can see there's empty lots where a building had been destroyed.
Et là, on voit un terrain avec un immeuble détruit.
You can tell nobody lives there. They're empty.
On voit bien que plus personne ne vit là. C'est vide.
You could see the side of one of the buildings, there was these
rectangles. Sur le côté, la façade de l'immeuble a été arrachée et on aperçoit ce qui reste du papier peint, des rectangles de différentes couleurs.
It's like the skeleton of where
un peu comme le squelette de ce qu'avaient été ces anciens appartements.
And there's a deserted candy store.
Et puis il y a aussi un magasin de bonbons abandonné.
And in the very, very far background is a
et tout au fond, à l'arrière-plan,
larger building going up, more modern building.
On voit un immeuble plus moderne en reconstruction.
Rebuilding. Rebuilding. Wait, and it looked like there had been a war there the week before.
May 10th. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me.
New York then was very, a lot of extremes.
New York à l'époque, c'était la ville de tous les extrêmes.
Super wealth and poverty.
La richesse côtoyait la plus grande pauvreté.
But also the blessings of huge, diverse people from all over.
Des gens du monde entier venaient tenter leur chance ici.
New York City is like a stew. You know, there's a carrot in there.
New York, c'est un peu comme un ragoût. Il y a une carotte, un peu de maïs, des petits pois, des haricots. Et tous ces ingrédients ont leur saveur, mais ils se mélangent pour lui donner ce goût unique.
I'm not a sociologist or a historian, but
bon, moi, je ne suis ni sociologue ni historienne. Mais ce que je peux dire, si je pense à ma famille, par exemple, mes grands-parents ont quitté la Russie, la Pologne et la Hongrie, et ils sont venus à New York. Simplement pour survivre et fuir la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a eu ce qu'on a appelé un exode blanc. Beaucoup de Blancs ont quitté le centre-ville pour les banlieues, pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Ça a défiguré la ville. La classe moyenne fuyait. Et ça a été un coup dur pour la ville. Quand je suis arrivée ici dans les années 70, je me suis sentie tout de suite chez moi. La ville était au bord du chaos avec des difficultés économiques énormes. Et comme c'était le chaos dans ma vie privée aussi, je me sentais chez moi ici. Je me sentais moins seule parce qu'il y a toujours quelqu'un comme toi ici.
C'était vraiment une population d'échappés. les gens qui ont échappé les terreurs de leur terroir.
Edmund White, écrivain.
La nuit, par exemple, moi, j'étais vraiment comme Superman avec deux identités parce que pendant le jour, je travaillais pour Time Magazine, qui est un peu comme l'Express, tout gandé avec ma cravate et tout. Et la nuit, j'étais dans les jeans troués et j'ai mené une autre vie entièrement différente. Et les deux ne sont jamais croisés. C'était dangereux et délabré à l'époque et il n'y a pas de lumière. Il y avait tous ces mecs sur les escaliers et c'était même assez violent. New York était une des villes plus dangereuses du monde à l'époque. Nous, les PD, étaient obligés de porter un sifflet parce que on était souvent agressés par les jeunes qui habitaient les HLM pas loin d'ici. On a sifflé et puis les autres homos sont venus pour bagarrer avec nous.
C'était une époque très agitée. Il y avait eu l'assassinat du président Kennedy, la crise des missiles de Cuba, puis l'assassinat de Martin Luther King, toute une série de bouleversements politiques. Mais c'était aussi une période de grands changements. On ne parlait pas d'homosexualité à cette époque. Les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir une carte bleue à leur nom, encore moins un prêt immobilier. Ma mère était la première de ses amies à décrocher un job. Donc, dans les années 60, il y avait aussi d'immenses manifestations pour le droit des femmes, mais aussi contre la ségrégation. On réclamait tous plus de droits dans ce pays, quelles que soient nos couleurs.
friend of mine began to walk up to me. He said, T, you've been singing for a long time. He said, don't oftentimes get worried.
My name is Annie Caldwell with the Caldwell
Moi,
singer.
Je m'appelle Annie, du groupe Annie and the Caldwell. J'ai 67 ans aujourd'hui. Et je viens de West Point, Mississippi. Dans ces années-là, j'entendais parler de Martin Luther King, des émeutes et de tout ça. C'était une époque où nous, les Noirs, on n'avait pas le droit d'entrer dans certains lieux réservés aux Blancs.
Black folk had certain places to go.
On avait nos lieux à nous.
I had eight brothers and one sister.
Moi, j'avais 8 frères et une sœur. Et on a tous grandi en chantant à l'église avec nos parents.
Coming into church, singing gospel. That's how we started out.
C'est comme ça qu'on a appris à chanter, avec le gospel. À l'église, on pouvait chanter. C'était vraiment la liberté. C'était un lieu spécial pour nous. À l'église, personne ne pouvait nous réduire au silence. On nous laissait prier le Seigneur. C'était dur pour nous. Mais je me souviens que ma mère me disait toujours que Dieu trouverait une solution pour nous, qu'un jour, on aurait une vie meilleure.
Quand vous avez vu arriver la disco, Annie, dans les années 70, qu'est-ce que ça vous a fait? Comment vous avez perçu ces voix féminines qui étaient plus libérées, qui chantaient complètement à l'opposé peut-être du gospel, mais avec pourtant peut-être la même intention dans la voix?
Moi, je n'étais pas contre le disco, mais pour être honnête, je vais te dire. Je trouvais que toute cette musique venait en fait de nos églises. L'église, c'est le berceau de nos chants. Quand t'entendais des refrains disco comme « Ain't nobody », il n'y a personne que j'aime comme toi, chérie. J'entendais que ça venait directement de paroles qui disent « Ain't nobody like you, Jesus ».
Back then, the time of my mother, that picked cotton, and my great-grandmother and my grandfather.
À l'époque où ma mère et mes grands-parents ramassaient le coton dans les plantations. Ils chantaient des chants dans ce genre, qui parlaient du Seigneur qui va nous exaucer et nous élever. Tous ces vieux chants, ce qu'on appelle le négro gospel. Et quand la disco est née, ils ont repris ce genre de phrases de célébration, mais à une époque où on dansait plus que l'on priait. Et moi, j'adorais ce son, ce rythme. Je me le suis approprié. Quand je chantais des trucs disco, je me disais que je chantais pour le Seigneur. Et souvent, ces chansons m'ont apaisé. Elles m'ont fait du bien. Elles ont un peu allégé mon fardeau. Ces chansons me réchauffaient vraiment le cœur. Quand je me sentais triste, elles me rendaient heureuse. Elles me faisaient pleurer alors que personne ne me faisait de mal. Elle me faisait me sentir riche quand j'avais pas un centime en poche. Dans la Bible, il y a un passage qui parle de David qui danse sans ses vêtements. C'est ce genre de feeling que procure la musique. Certains ressentent peut-être ça en écoutant du blues. Je ne sais pas ce que ça leur fait, mais je sais ce que ça me fait à moi.
Aquarius, extrait de la BO du film Air, inspiré par la comédie musicale éponyme créée à New York en 1967. Air, c'est la chronique d'une jeunesse américaine qui grandit entre la guerre du Vietnam et l'aspiration à plus de liberté.
The play, the musical Air. But yeah, I think
ah oui, la comédie musicale Air.
Bill Bernstein, photographe.
La musique de Air, c'était pas du disco, mais c'est vrai que c'était clairement précurseur. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'était une remise en question de la société et de la culture américaine. Ensuite, il y avait des gens nus sur scène, c'était du jamais vu. Et enfin, R parlait de libération au sens large, pas seulement homosexuel. Et les gens avaient envie de se libérer des contraintes sociales et de faire les choses autrement. Et puis, il y avait une vraie curiosité autour du sexe à l'époque. Et je crois que ça venait directement de tous ces mouvements de libération de la fin des années 60-70.
Marsha Stern, productrice et éclairagiste.
Il faut se souvenir que juste avant, les femmes avaient commencé à manifester pour réclamer leurs droits. Moi-même, j'avais brûlé mon soutien-gorge au lycée. Donc, il n'a fallu que quelques années pour que les Américains évoluent et s'autorisent à être un peu plus eux-mêmes. Mais si tu bossais dans un endroit un peu strict, tu devais cacher que tu étais gay, parce que ça pouvait vraiment se retourner contre toi. Même si ça n'avait absolument rien à voir avec tes compétences professionnelles, bien sûr. Les profs, par exemple. Il y avait des profs qui se faisaient virer parce qu'ils étaient homosexuels. C'était d'excellents profs, mais on les virait parce qu'ils étaient gays et que la société ne savait pas comment gérer ça.
Sodomie. Fellation. Cunnilingus. Pédérastie. Oh père, pourquoi tout ça a l'air si malsain? La masturbation, ça peut être marrant. Allez, rejoins la Sainte Orgie. Kamasutra pour tout le monde.
Pour moi, c'était comme une fièvre. J'étais vraiment obsédé sexuel. Et l'idée qu'on peut avoir encore une expérience avec un beau garçon à 3 heures le matin, c'était trop tentant. Pourquoi on reste à la maison?
Edmund White.
Je suis sorti toutes les nuits et c'était vraiment comme une drogue. Et en plus, on était souvent drogués, au moins avec le cannabis.
Alors, est-ce que vous diriez, Edmund White, que quelque part dans toute cette communauté, dans toutes ces rencontres d'amitié multiples et de relations sexuelles multiples, peut-être pour vous, c'est aussi l'occasion de se recréer une famille, mais une famille qu'on choisit?
Oui, mais je pense l'idée d'une famille n'était pas trop attirante pour nous. C'était justement des autres rapports nouveaux, inventés. On avait un amant, on avait des amis avec bénéfices, on dit. On avait fuck buddies, copains de cul, on peut dire, peut-être. On avait beaucoup de gens différents dans la vie. C'était la vie homosexuelle avant le SIDA était comme une grande molécule avec beaucoup d'atomes différents rangés dans une façon originelle.
Oui, à l'époque, il n'était pas question d'avoir des enfants.
Jamais. on était plutôt inspiré par les bohèmes, le milieu bohème hétérosexuel, c'est-à-dire les artistes, les écrivains, blah, blah. Et eux, ils ne voulaient pas se marier. Et les PD voulaient être comme ça. Mm. Pas maman, papa.
Donc, personne ne se sentait trompé, quelque part.
Parce qu'on était humains, on se sentait jaloux souvent, mais on luttait contre.
On voulait vraiment être différent de nos parents. On n'était pas matérialistes. On montait des fermes et des coopératives. Les gens arrêtaient leurs études et se défonçaient. C'était comme ça en Amérique. Donc ça bouillonnait de partout. Il y avait beaucoup de changements culturels. Les nouvelles idées étaient les bienvenues.
Oui, et c'est là où la révolution homosexuelle a commencé, en 69. Christopher Street était la rue où Stonewall existait et existe toujours.
C'était une boîte homosexuelle.
Oui, et les Noirs n'habitaient pas dans le coin, et c'était toute une culture noire dans ces soirées clandestine. Christopher Street, surtout l'été, quand il faisait beau, il y avait énormément de gens. C'était impossible pour les voitures d'entrer dans la rue parce qu'il y avait une foule extraordinaire, peut-être 95% homosexuels et jeunes.
Now we're coming out. Out of our closets, out on the streets, yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love.
Le 28 juin 1969, la police new-yorkaise veut mettre fin à une fête au Stonewall Inn, un bar clandestin de Greenwich Village. Mais les danseurs et les fêtards décident de ne pas rentrer chez eux.
C'est la descente de trop.
Patrick Thévenin, co-commissaire de l'exposition Disco à la Philharmonie de Paris.
C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser embarquer dans le panier à salade, comme d'habitude, eh ben, il résiste. Donc il commence à donner des coups de poing aux flics, il commence à jeter des pierres. Et les flics ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça commence à dégénérer. Et il y a les clubs voisins, parce que c'est dans le village, qui est un peu le quartier gay, le marais de l'époque. Et voilà. Et les autres se rejoignent, il y a 3 jours d'émeute. Et là, on commence à se dire, la police et même la mafia qui tient beaucoup d'endroits, commence à se dire, il va falloir se calmer.
Stonewall happened literally. Mary Messler, photographe.
Les émeutes de Stonewall, ça s'est passé exactement le jour de mon bal de promo de fin de lycée. Et c'était une sacrée nouvelle. Avant ça, on ne parlait jamais des homosexuels, à part peut-être d'un coiffeur. Mais sinon, on ne parlait jamais d'eux. Alors ces émeutes étaient incroyables. Et ça se passait pas très loin de chez moi en plus. Tous ces queers qui descendaient dans la rue pour défendre leur droit d'être considérés comme des êtres humains.
A side note in my head, you know, side
note, but a fait son chemin dans ma tête.
But when I was in college, I mean, you'd start hearing, you know, some music.
Et puis une fois à l'université, j'ai commencé à écouter des trucs comme Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, et j'ai découvert qu'il y avait d'autres vies possibles et que c'était acceptable. Et que je n'étais donc pas la seule à avoir ces drôles d'idées.
So I heard about gay rights for the first time.
C'était la première fois que j'entendais parler des droits des homosexuels.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side.
I think it was 69. There was a Stonewall riot.
Bill Burstein.
In New York City, where...
En 69, il y avait eu les émeutes de Stonewall à New York, qui marquent le début des luttes gays, des gay pride et de ces manifs qui sont devenus aujourd'hui internationales. C'était aussi l'époque des débuts des mouvements féministes et du mouvement pour les droits civiques dans cette Amérique des années 60-70. Donc la culture américaine était en effervescence, en pleine mutation. Alors, quand la disco est arrivée, c'était comme un appel à aller faire la fête tous ensemble pour tous ces mouvements. Un appel à danser ensemble. Comme un rendez-vous en discothèque pour tous ces gens venus de différents milieux et de différentes cultures, réunis par la disco.
Under one tent at the disco. So it was a real age of diversity.
L'Amérique entrait dans l'ère de la diversité.
Take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
À partir de là, de plus en plus de clubs pas vraiment gays pour l'époque, c'est pas étiqueté gay, vont s'ouvrir. Dont notamment The Gallery, le Flamingo, le Sanctuary, le Jardin, le J.J. Barnum. Et tout d'un coup, il y a une explosion de plein de petits clubs, mais qui correspond aussi au fait que les lieux de danse, avant c'était vraiment des bars ou des salles, des restaurants, où il y avait un jukebox. Et le problème du jukebox, c'était que les morceaux étaient courts, c'était des morceaux radio, donc des morceaux de 2 minutes 50, 3 minutes. Et dès que le disque s'arrêtait, les gens retournaient sur leur siège ou retournaient au bar. Et dès qu'ils entendaient les premières mesures d'un morceau qui leur plaisait, ils retournaient danser. Et il y a des DJ qui se disent « ce serait mieux s'ils restaient danser tout le temps ».
Moi, j'ai découvert le mot discothèque en France. J'étais partie faire du ski à Chamonix et je suis sortie en discothèque. C'était une première fois. On n'avait pas ça chez nous aux États-Unis. On avait des clubs. Et même le mot discothèque n'est arrivé chez nous qu'au milieu des années 70, avec les tubes de Donna Summer. Parce qu'avant, nous, on dansait nos musiques américaines, de la Motown, de Philadelphie ou de Memphis. C'était Harold Melvin and the Blue Notes, Teddy Pendergrass, les Four Tops. Ce n'était pas de la disco, c'était du R&B. Non, c'est pas vraiment de la disco. The Love I Lost, ce morceau, c'est vraiment le son de Philadelphie. C'est sorti en 72. Je crois pas qu'on parlait encore de disco à l'époque. C'était encore du R&B. Mais c'est le premier disque avec ce beat, le fameux Four on the Floor.
The Love I Lost was a sweet love. The love I lost.
I will never, never, no, no, never love again. I would never, never, never love again. Never, never, no, no, never, never love again. Yeah, 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 yeah. Never, never, no, no, never, never love again. Les débuts du disco, les deux, trois premières années,
on a du mal à différencier ce qui est funk, soul et disco. La seule chose peut-être qui peut vraiment différencier, c'est le beat, le tempo et ce martèlement de la grosse caisse sur tous les temps. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence.
Belkacem Mezian, écrivain.
Alors, le marquage sur tous les temps, ça s'appelle « four on the floor ». Four, c'est quatre, c'est les quatre temps on the floor, donc sur le sol, parce que c'est le pied de grosse caisse. The Love I Lost, ce morceau-là a été créé donc à Philadelphie, et ce beat disco qui est créé, ou en tout cas popularisé par un monsieur qui s'appelle Earl Young, qui était le batteur qui joue sur The Love I Lost, qui va jouer sur The Sound of Philadelphia, qui est le générique de l'émission Soul Train, donc ce n'est pas rien non plus, qui va jouer sur tous les disques des OJs, les disques de Billy Paul, etc. Et donc va y avoir une espèce de domination du format qui va imposer ce beat à 120, qui va vraiment, vraiment être l'origine de tout ce qui va se passer dans le disco.
Quand vous dites 120, c'est 120 BPM, 120 battements par minute, c'est donc le tempo qui devient le standard du tempo disco, en tout cas au début des années 70.
C'est indéniable. Ben voilà, là il y a tout qui fait penser à la disco, il y a les cordes, il y a tout qui évoque la disco des années 70, le début de la disco, c'est-à-dire avec les cordes, même les voix. Il y a un côté très mélancolique et assez romantique.
Vincent Tagueur, musicien.
Et c'est le rythme de la basse et de la batterie qui font que ça devient plus entraînant et plus dansant, et c'est ce qu'on appelle la disco, quoi. Et puis la basse aussi qui joue les octaves. Enfin là, c'était pas le cas, mais elle joue en croche. Mais c'est vrai que... Mets le début du morceau, s'il te plaît. Ça aurait pu être une balade, quoi. Voilà. C'est vraiment les trois éléments, la grosse caisse donc sur tous les temps, le charlet, voilà, 1, 2, 3, 4, le charlet à la double, mais avec l'ouverture en l'air, et la caisse claire, ce qu'on appelle sur l'afterbeat, sur les 2 et 4. Quoi.
Si on résume, Vincent, il y a un côté très mat pour la grosse caisse, c'est-à-dire la rythmique tous les temps, il y a un côté plus ouvert, plus aéré du charlet, et c'est un peu le contraste entre les deux, en fait. Finalement, il y a beaucoup de résonance dans les aigus.
Oui.
Et dans les basses, c'est très mat.
Oui, c'est vrai que la grosse caisse, elle a un côté vraiment très métronomique et c'est régulier avec toujours le même son, le même volume. Et c'est vrai que la vie, elle se passe beaucoup dans le charlet, en fait. Où c'est là qu'il y a le mouvement. Puis ça peut être aussi un peu plus, ce qu'on appelle un peu swingé, un peu plus ternaire. J'exagère beaucoup là, mais c'est beaucoup plus titili. C'est ce qu'on appelle le swing, en fait. Et si je desserre, on va voir que... Voilà, je desserre.
Ce martèlement va fédérer aussi les danseurs sur le dance floor.
Belkacem Mezian.
Quand Monsieur Tout-le-Monde se retrouve sur un dance floor, il faut bien lui donner quelque chose sur lequel s'accrocher. Et c'est ce beat, ce four on the floor, qui va permettre aussi de démocratiser le disco. Un piètre danseur comme moi, par exemple, peut de toute façon trouver à peu près ses marques.
C'était Discothérapie, premier épisode, le disco avant la fièvre, avec Annie Caldwell du groupe Annie and the Caldwell, Marsha Stern, Meryl Messler, Bill Bernstein, Patrick Thévenin, Belkacem Mezian, auteur de 100 hits disco de 1972 à nos jours, Edmund White, écrivain, auteur de City Boy, et Tim Lawrence, auteur de Love Saves the Day, fête underground disco et dance music aux États-Unis. Discothérapie, un documentaire d'Elodie Maillot, réalisé par Thomas Duterre, mixé par Nadège Antonini. À suivre. deuxième épisode, au commencement, était le DJ.
Vous écoutez France Culture.
Yeah.